Henri de Régnier, La double maîtresse, troisième partie, chapitre 12. Toute la journée, le signor Angiolino avait battu le pavé de Rome à la recherche de Monsieur de Galando qui ne reparaissait pas. Où pouvait-il bien être allé? Olympia et Angiolino en étaient fort en peine, d'autant plus qu'ils tiraient chaque jour de plus abondantes ressources du gentilhomme français dont le riche revenu passait tout entier aux mains des deux fripons et à celles de M. Dalphy, car le banquier prenait bonne part à la curée. Aussi désirait-il que M. de Galando durât, de toute façon, le plus longtemps possible. Il avait signifié la chose à Angiolino et lui avait fixé la mesure où lui et Olympia pourraient rançonner leur pensionnaire. Il voulait bien qu'on dépensât M. de Galando, mais non qu'on le ruinât, car il redoutait les ennuis qui peuvent suivre un esclandre de ce genre. De même, lorsqu'il trouvait à son client petite mine et mauvais teint, il recommandait aux deux coquins de prendre garde, pour lui, à la malignité du climat de Rome. M. Dalphy s'intéressait à M. de Galando, d'autant mieux qu'il y était intéressé. Ce fut donc chez le banquier que le ruffian courut tout d'abord compter ses transes. M. Dalphy ne savait rien. Au palais Lamparelli, Angiolino apprit que M. de Galando avait fidèlement porté les singes. La caisse s'y trouvait encore. À partir de là, on perdait sa trace. Il n'avait pas dû aller bien loin sans argent. Olympia et Angiolino se reprochaient l'un à l'autre l'escapade du bonhomme. Ils se rendaient bien compte qu'ils avaient peut-être un peu abusé de lui par leur façon de le traiter. Mais, au lieu d'en convenir, ils préféraient se quereller à ce sujet, tout en se promettant intérieurement, quand il reviendrait, de ne s'en prendre qu'à lui de l'alerte qu'il leur causait. Pourtant, il ne revenait pas. Aurait-il été attiré dans quelque guet-apens? Sa mine n'était guère faite pour tenter les voleurs, et Angiolino, toujours bouffon, malgré ses inquiétudes, imitait la démarche et les ridicules du vieux gentilhomme, tandis qu'Olympia apostrophait à distance le fugitif. En tout, ils riaient jaune, quoique l'absent eût déjà laissé en leurs mains de belles dépouilles. Mais le pire était que leurs déconvenus finissaient par les tourner contre eux-mêmes. Aussi, le matin du second jour qui suivit la fuite de M. de Galando, les choses allaient-elles fort mal dans la chambre où Olympia et Angiolino étaient encore au lit. Dès son réveil, Olympia avait commencé à geindre jusqu'à ce qu'Angiolino, agacé, eût répondu par un grand soufflet qui rabattit la signora sur son oreiller, d'où elle se redressa d'un bond, et fit face à son amant en poussant des jurons de colère, l'œil mauvais et les mains hostiles. Ils en étaient là quand ils entendirent du bruit au dehors. Le vacarme des voix les appela pieds nus à la fenêtre. Elle donnait à l'arrière de la maison, sur une petite place, déserte d'ordinaire, et qu'ils virent pleine de monde. Des groupes de femmes y riaient et y gesticulaient, et une bande de polissons y faisaient tapage en agitant leurs guenilles sur leurs corps grêles et souples. C'était de ces petits mendiants, comme il en pullule à Rome, qui harcèlent les passants et jouent aux osselets sur les dalles, en même temps serviles et turbulents. Angiolino ne devinait pas la raison qui avait bien pu les assembler là pour jeter contre le mur des cailloux, du sable et des pommes de pin. Tout à coup, une nouvelle troupe les vint renforcer, au milieu de laquelle, porté sur les épaules de ses camarades, un bambin, à toison noire et frisé comme celle d'un bélier, haussait au bout d'un bâton une perruque d'homme. Olympia et Angiolino poussèrent un cri double. C'était la perruque même de Monsieur de Galando. Il montait l'escalier et il l'entendait venir. La porte ouverte, il se précipita et resta immobile au milieu de la chambre. Son habit déchiré ne lui tenait plus au dos. Les basques en avaient été arrachées. Un de ses bas, la jarretière rompue, avait glissé le long de la jambe, qui apparaissait maigre et couverte de longs poils gris. Sa chemise passait par son gilet déboutonné. Il était couvert de poussière. Une grande toile d'araignée lui pendait au coude, et, au fond de sa culotte, s'arrondissaient deux larges cercles de jaune d'œuf, où, dans la croûte durcie, des plumes et des duvets demeuraient collés. Cet accoutrement bizarre formait la plus surprenante figure de carnaval qu'on pût voir et expliquait la poursuite des vauriens et leur acharnement contre ce mannequin hétéroclite. Mais ce qui portait au comble la singularité de cette silhouette et ce qui fit éclater de rire Angiolino et Olympia fut de voir M. de Galandeau entièrement chauve, sauf quelques longs cheveux gris épars et, sans sa perruque ordinaire que les polissons étaient en train de se disputer sur la place, ruer les uns contre les autres avec force Orion à la conquête de ce bizarre trophée dont le pauvre M. de Galandeau tâtait furtivement l'absence sur sa tête dénudée. Elle le resta. Jacopo chercha en vain une autre coiffure au fond des malles de M. de Galandeau. Elles étaient vides et ne contenaient plus de vêtements de rechange. Les 12 perruques et les 12 habits pareils apportés autrefois de Paris se trouvaient à présent usés. Aussi, le lendemain, quand il se réveilla, éprouva-t-il une singulière surprise. À peine levé, il alla en chemise à la recherche de son costume habituel, mais il n'en restait plus que les souliers à boucles. Les autres pièces en étaient tellement souillées de crottes, de poules et d'œufs écrasés qu'on avait dû les jeter aux ordures et faire appel, pour les remplacer, à la garde-robe de Jacopo. Angiolino n'ayant rien voulu distraire de la sienne, de telle sorte que M. de Galandeau, ne trouvant rien d'autre à sa portée, fut réduite à se contenter d'une culotte trop courte, grossière et rapiécée, et d'une sorte de souquenille verdâtre. Ce fut donc dans cet attirail que, n'osant se présenter devant Olympia, il descendit de lui-même à l'office, où il subit les quolibets de la servante Julia, de la cuisinière Romagnole et de Jacopo, qui, enhardi par l'aspect comique du vieux gentilhomme, perdit d'un coup le peu de respect qu'imposait encore la veille à un drôle de son espèce la canne à pommes d'or, l'habit à basque et la grosse perruque à l'ancienne mode de M. de Galandeau. Il ne répondait rien aux plaisanteries. D'ailleurs, il ne parlait à personne, penaud, interdit, craintif et encore tout moulu de son aventure. Il rôdait en bas dans le vestibule et s'esquivait au moindre bruit. Il se risqua pourtant à sortir du jardin. La petite chienne Nina y jouait. Elle allait et venait par les allées, justement en train de flairer du museau une touffe de buis, quand elle entendit le pas du promeneur. Elle leva la tête et regarda. Monsieur de Galandeau se dirigeait vers elle sans la voir, mais, quand la chienne l'aperçut, elle se mit à aboyer avec fureur contre cet intrus qu'elle ne reconnaissait pas. Sa colère se changea en une véritable hargne. La bestiole jappait furieusement. Elle tournait autour de Monsieur de Galandeau, qui avait grand-peine à garer ses mollets, si bien que, pour éviter la dent du roquet, il grimpa sur la balustrade de la terrasse. La Nina ne désarma point. Satisfaite de sa victoire, elle se coucha en rond, se pelotonna, mais chaque fois que son prisonnier faisait mine de descendre, il voyait l'œil vigilant et la dent prête de son ennemi. Monsieur de Galandeau vivait dans la maison comme s'il eût été une ombre transparente et irréelle. Il n'existait plus. Personne ne le considérait. Les premières fois qu'il croisa Angiolino dans un corridor, il se crut perdu. Angiolino passa comme s'il ne le voyait pas. Mais, à chaque nouvelle rencontre, M. de Galandeau ressentait une peur nouvelle. Alors, il feignait d'être absorbé par quelque occupation, comme de gratter le mur ou de faire un nœud à son mouchoir. Plusieurs jours passèrent. Peu à peu, M. de Galandeau parut se rassurer. Il en vint même à essayer de faire remarquer sa présence. Il toussait, reniflait, mais sans parvenir à attirer l'attention du distrait Angiolino. Souvent, il venait jusqu'au bas de l'escalier qui conduisait à la chambre d'Olympia. Il écoutait longuement. Le moindre bruit le menait en déroute. Une fois même, il se hasarda à monter quelques marches. Un jappement lointain de Nina les lui fit redescendre précipitamment. Quant à la signora, elle demeurait invisible. Il regardait tristement Julia ou Jacopo passer avec une assiette ou un plateau pour aller chez elle. Un jour, il trouva sur une table un réchaud allumé. Il servait à faire chauffer le linge dont Olympia se séchait au sortir du bain. M. de Galandeau, du coup, n'y tint plus, et, avant que la servante fût venue prendre l'ustensile, il le saisit et se sauva avec tout courant. Il arriva ainsi à la porte de la salle de bain. Il hésita un instant, puis, poussant le battant du genou, comme il faisait naguère, il entra. Olympia se baignait, Sa tête sortait seule de l'eau. Elle avait la nuque appuyée au rebord de sa baignoire et laissait flotter son corps allongé. Auprès d'elle, Angiolino se tenait debout, les mains mouillées. Il venait sans doute de chercher sous la transparence de l'eau les charmes humides de sa maîtresse. Monsieur de Galando posa le réchaud sur une tablette et attendit. En le voyant, Olympia se redressa brusquement et s'assit. Son torse ruisselant émergea. On entendait un petit clapotement et le bruit des gouttes qui tombaient de ses bras élevés dont elle rajustait sa chevelure. Des gouttelettes brillantes coulaient le long de sa chair polie et s'amassaient sous l'aisselle d'où elles retombaient une à une, comme d'une algue naturelle, brune et frisée. Puis, elle croisa ses bras sur sa poitrine et dévisagea M. de Galando, collé au mur de tout son corps et de ses deux mains aux doigts écartés. « Comment ? C'est toi ? Mais d'où viens-tu donc ? Je te croyais parti, et parti encore sans dire adieu. Et te revoilà. Oui, on s'en va un beau jour, sans crier gare. Envolé, le bel oiseau. Parti, disparu, décampé. On le cherche, rien. Tu sais, j'ai d'abord cru que Lamparelli t'avait fait enfermer par mégarde avec ses singes. Il paraît que non. Tu es donc allé chez des femmes ? Dis-moi donc, est-ce que tu as trouvé mieux ? Elle s'était mise debout et soupesait sa gorge assouplie. Angiolino s'essuyait tranquillement les mains et regardait M. de Galando d'un air goguenard. Olympia reprit. « Eh bien, je m'étais habituée à toi. Voyons, ne te trouvais-tu pas bien chez nous ? Qu'est-ce que tu nous reproches ?» À mesure qu'elle parlait, elle s'échauffait. Elle croyait, en ce moment, d'assez bonne foi, que M. de Galando l'avait véritablement offensée. En même temps, à sa colère, se mêlait l'intention d'enlever au vieux gentilhomme le désir de recommencer son escapade. Elle se savait maintenant assez nécessaire à son habitude pour user de la prise que lui donnait sur lui le besoin qu'il avait d'elle. Monsieur de Galando écoutait tout cela en silence. Il passait avec embarras sa main sur son crâne chauve et remontait sa culotte dont la ceinture trop large pour sa maigreur ne tenait guère à ses reins. « Est-ce que tu n'étais pas heureux avec nous ?» continuait Olympia. « Que te manquait-il ? Tu es nourrie, logée, soignée, gâtée. Tout le monde est aux petits soins pour toi, Angiolino et moi. Il a confiance en toi. Est-ce qu'il ne t'a pas envoyé porter les singes à Lamparelli ? Lamparelli, un cardinal, et qui a manqué d'être pape. Tu es le père de la maison. Tu sais tout ce qui s'y fait. Est-ce qu'on te cache quelque chose ? Tu prends la meilleure place à table. Angiolino ne manque pas d'y porter ta santé. Tu es le maître de tout, tu fais ce que tu veux. Je t'aimais bien. C'est toi qui baignais Nina. Tu pouvais monter, descendre, aller, venir, balayer, frotter. Tu étais heureux. Et c'est comme cela que tu nous récompenses. Allons, demande-moi pardon et à genoux. Angiolino avait posé sa main sur l'épaule de M. de Galando qui fléchit en balbutiant des paroles inintelligibles. Olympia enjamba la baignoire. Ses talons mouillés laissaient à chaque pas une trace luisante. Elle marchait vers M. de Galando, qui la regardait venir, la tête basse et les mains jointes. « Allons, demande pardon. Dis pardon, Olympia, je ne le ferai plus. » Elle le secouait de ses fortes mains. Elle était maintenant à califourchon sur son dos et elle l'opprimait de son poids. Entre ses genoux, elle serrait les côtes efflanquées du bonhomme qui se débattait en geignant. Olympia prenait goût au jeu. Sa colère tournait en gaieté. « Allons, courage ! Désarçonne-moi ! Rue donc ! Bravo, Galando !» Une grande glace reflétait leur groupe équestre. Tout à coup, la monture céda. Monsieur de Galando s'abattit à plat ventre, tandis qu'Olympia se relevait d'un coup de rein et, toute nue, debout, les mains aux hanches, partait d'un grand éclat de rire qui lui renversait la tête en arrière et faisait trembler mollement ses seins dont les pointes avivées par l'eau reprenaient en séchant leur couleur d'un brun rosé.